Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Good morning. How are you today?
Spotzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 52, ici Richard Delhomme. Dans cet épisode live, j'ai invité Rémi Lequin, que je ne présente plus, Thomas M qui se présentera tout seul, et Vincent Vergès qui n'est autre que mon nouveau partenaire, pour faire de Spotzle une plateforme de blogging dédiée aux vélos d'aventure, sur la route ou les chemins. Nous allons aborder le thème du bikepacking sous trois angles. Comment construire un vélo soi-même pour pas trop cher et s'équiper également pour pas trop cher? Comment choisir une première épreuve lorsque l'on débute et comment se préparer pour celle-ci? Bonne écoute!
Voilà, et bien là nous sommes en ligne apparemment pour ce nouveau live, donc spécial confinement parce qu'apparemment on ne peut pas rouler. Donc là vous êtes deux online. Pour le moment, 2, 3, il y a encore un petit problème de connexion. Hop, je finis de faire arriver mes invités parce que il y a encore, voilà, j'en entends un dans les oreilles.
Et bonjour.
Eh ben, qui es-tu?
Thomas.
Et bonjour Thomas, ça va?
Eh ben, écoute, on est pas mal, on va pas se plaindre.
Tu m'entends comment là?
Pas trop mal.
Ouais, tu m'entends comme si je parlais dans un micro ou comme si je parlais dans mon ordinateur?
C'est un micro correct, voilà. C'est pas du Wi-Fi, mais c'est correct.
D'accord. Bon, ça, que ça ne soit pas du Wi-Fi, je l'avais compris tout seul, merci. Bon, on va juste attendre que donc Vincent et Rémi arrivent. Je vais juste finir, j'étais en train de mettre un lien... Un livre, exactement, voilà. Bon, bah écoute, tu sais quoi, en attendant qu'ils arrivent, tu vas te présenter parce que autant Rémi est connu, Vincent qui va arriver, donc qui est mon nouveau partenaire de crime, on va dire.
Félicitations. Allô?
Ah ouais.
Ah, il y a eu un bruit terrible.
Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, je suspecte Vincent, donc le technicien de l'équipe. Ouais, je pense que c'est Vincent, exactement.
Faut bien taper sur quelqu'un.
Non, mais surtout que c'est une très bonne nouvelle. C'est lui qui est chargé du développement de la plateforme. Donc, qu'il soit pas capable de brancher un micro, je suis super rassuré.
Lui aussi, t'es un simple mortel, ça va.
Exactement, donc, vraiment, puis là, en plus, je me suis pas du tout moqué, donc, et Rémi, est-ce qu'il est là? Ah ben, c'est un peu laborieux, hein, pour les débuts, hein, c'est normal.
Mais c'est pas grave, écoute, hein, de toute manière, on n'est pas aux pièces, moi, ils attendent plus rien de moi à cette heure-là du boulot. Bon, déjà, ouais. Quand t'es normal, je dirais les mauvaises langues, hein, mais bon.
Ouais, mais ça, c'est les mauvaises langues, de toute façon, les mauvaises langues ont toujours quelque chose à dire, donc, c'est pas un problème.
Eh oui.
Voilà. Bon, en tout cas, il y a un petit peu de monde qui arrive et ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Donc ça c'est cool. Alors donc je le répète encore une fois, on attend la connexion et l'arrivée de Rémi Lequin et de Vincent Vergès. Donc Rémi Lequin, éminent spécialiste du bikepacking en France. Vincent Vergès, qui est donc mon nouvel associé dans Spotzle et qui va s'occuper du développement de la plateforme, mais également, et bien plus important pour ce qui nous occupe aujourd'hui, l'administrateur de Bikepacking France, donc qui compte environ 9 500, 10 000 abonnés, et qui a lui aussi une très forte expérience en bikepacking, donc qui va pouvoir nous donner aussi ses lumières, s'il arrive à brancher un micro, ce qui n'est pas toujours évident.
On se moque
pas. Ouais, voilà. Christophe vient d'arriver avec un pseudo pas croyable, PBGC 0F6D59PPN. Ça, c'est uniquement parce que il a vu le bouquin avec Edward Snowden et donc il s'est dit, il faut absolument que je crypte mon truc. Sinon,
non, c'était son mot de passe, en fait.
Alors, Rémi me dit, je suis connecté, mais vous m'entendez pas. Bon, bah écoute. Et Rémi, essaye de passer par le lien que je t'ai envoyé le lien d'invitation et essaye si tu peux de te connecter par un ordinateur, ça sera bien mieux que l'application mobile, visiblement. Donc, ce qui nous occupe aujourd'hui, ça va être le bikepacking. Et comme je te disais, Vincent, tout à l'heure, lorsqu'on préparait tout à l'heure, pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, on va parler de choisir une première épreuve pour les débutants en bikepacking. Un petit peu de pneus, un petit peu de prépa, donc du classique, et on va se laisser guider. Donc, dans l'ordre, on va parler, et c'est pour ça que je t'ai proposé d'intervenir, le vélo, donc construire son vélo soi-même, donc vraiment avec des pièces récupérées à droite et à gauche pour du bikepacking, tout ça en mode pirate et on emmerde l'UCI avec sa réglementation, parce qu'on n'arrête pas de parler d'esprit gravel, d'esprit bikepacking et tout ça, à mon sens, c'est du flan. La seule chose qui vaut le coup dans ce pseudo-esprit, c'est le côté un petit peu pirate où on peut rouler avec le vélo qui nous intéresse et où chaque utilisateur, chaque participant a un vélo qui lui ressemble. Et ça, en faisant absolument fi de la réglementation UCI. Et ça reste, je pense, le truc vraiment le plus cool. On parlera également de choisir une épreuve lorsque l'on débute. Donc, comment on choisit laquelle et comment se préparer à cette épreuve. Voilà. Donc, mon petit Thomas, en attendant que tout le monde arrive, eh ben, tu vas te présenter.
Ben écoute, avec plaisir. Merci beaucoup déjà pour tes émissions, que je suis de longue date. Étant souvent sur la route par mon métier, j'apprécie de pouvoir écouter des émissions de qualité et sympathiques et autour de nos loisirs communs sur la route. Mm-hmm. Et donc, c'est un très grand plaisir et un honneur d'être invité. Et donc, voilà, j'ai 46 ans, donc Thomas, j'habite dans le sud-ouest. Donc, tu vois, avec Rémi, là, on va faire un petit peu le tour de la France. Là, on fait la diagonale. Là.
Exactement.
Et donc, c'est sympathique. Je suis originaire du sud-est. J'ai trois enfants adolescents maintenant, donc à la maison actuellement, hein, collège et lycée. Et je fais du vélo depuis quasiment toujours, au moins une bonne quarantaine d'années. J'ai toujours eu plaisir à rouler, mais partir quand j'étais gamin, je prenais le vélo. Et puis pendant les vacances, on était en Italie, je suis originaire de là-bas. On était en Italie pendant les vacances d'été, puis je prenais le vélo, je partais une heure, deux heures, trois heures, demi-journée. Bon, aujourd'hui, c'est impensable en parent du 21e siècle, mais à l'époque, ça passait bien, et pour ça, c'était génial. C'était la découverte, c'était le plaisir. Et ce côté plaisir, découverte, il est toujours un peu resté, avec une passion à titre perso pour tout ce qui est mécanique. Donc, c'est passé par les voitures, les motos, les choses comme ça. Et je me suis calmé depuis. Hein. Tu sais, quand on se marie, tout ça, on voit la moto, des choses comme ça. C'est des moments difficiles. Mais bon, on y survit bien. Et puis toujours le plaisir de rouler. J'ai eu l'occasion de me remettre sérieusement au vélo dans les années, fin des années 90-2000. Je roulais déjà pas mal en VTT de l'époque. Et si je dis de l'époque, c'est que j'ai repris il y a 3 ans à peu près, un peu sérieusement. Et en fait, je me suis rendu compte que le VTT d'il y a 15 ans et le VTT de maintenant avait beaucoup changé. Était devenu un espèce d'animal ultra spécialisé, ultra pointu, avec l'accent, qui devenait maintenant vraiment dans une petite case et non plus le couteau suisse qu'on avait à une époque. Voilà.
Bien. Alors.
Et donc, par rapport à ça, j'aime briller là-dessus.
Voilà, vas-y. Très bien. Alors, question naïve, là on est tous confinés, beaucoup de monde a rejoint la famille. Comment se fait-il que tu n'aies pas rejoint ta famille en Italie ?
Alors c'est de l'origine en fait, hein. C'est mes grands-parents qui étaient des grands-parents qui crevaient un peu la faim là-bas et qui sont venus, qui ont traversé la montagne, qui sont arrivés du Piémont, donc qui est un petit peu touché hein, déjà maintenant, et qui sont venus dans le sud-est, donc je suis né et grandi à Nice. Voilà.
Donc je suppose que tu as apprécié l'épisode avec Sanseverino parce qu'on a parlé de diaspora italienne. Avec
bien sûr, aussi. Bien sûr.
Voilà.
Ah ben pour moi c'était très parlant.
Hein. Bah, c'est pas le seul, hein. Enfin, vous êtes très nombreux, et enfin, je vais pas refaire l'épisode avec Sensé, mais des Italiens qui ont fui le pays pour fuir la misère, il y en a plein, et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'Italiens à New York, notamment, parce que il fallait bien aller travailler, des Irlandais, et ça remonte à cette période pour Av.
J'ai des cousins, d'ailleurs, aux États-Unis.
Ben voilà. C'est marrant, parce que moi, ma cousine, elle est à côté de Vierzon. Tu vois, c'est beaucoup moins. J'en ai une à
c'est
Montluçon.
C'est moi sexy de New York, tout de suite.
Ouais, mais... j'en ai une à Montluçon aussi, si ça fait rêver du monde. Voilà.
Ça arrive à tout le monde, hein.
Bah, ouais, alors ça y est, tu vois. Le Vincent Vergès vient d'arriver. Tout ça avec un commentaire narquois. Rémi aussi, tu es là, mon petit?
Ouais, est-ce que vous m'entendez?
Non, mais on t'entend super. Hyper bien, mon lapin.
Voilà, ouais, nickel.
Comment ça va?
Ça va.
Ça va. Bon.
C'est pas la folie, mais ça va.
Et à quoi ça ressemble concrètement les symptômes d'un mec qui a chopé le coronavirus? Est-ce que tu peux me dire?
Ah oui, globalement, c'est pas compliqué. La journée, c'est une gueule de bois, en fait. C'est une grosse gueule de bois avec où on a fumé un paquet de cigarettes la veille.
Ouais. Donc,
de mal au crâne, de la fièvre, vraiment un peu groggy, un peu pas trop bien, des vertiges. De la toux, le nez qui coule, bah, encombré, voilà, très encombré. Donc la journée, c'est ça, mais globalement, ça va. Le pire, c'est la nuit, quoi. Beaucoup de mal à respirer. Donc là, d'accord, ça devient pas dangereux, mais bon, ça ressemble à une crise d'asthme. Je m'étouffe beaucoup. Et ouais, c'est vrai que là, je guette quand même. Là, c'est
d'accord,
vraiment. Là, ça évolue pas en bien à ce niveau-là. Donc, de jour en jour, donc j'attends de voir, quoi.
Ouais.
Ouais, bon. Ouais.
Bon, de toute façon, je sais que dans ton entourage, tu es très bien entouré.
Oui.
Donc je me fais pas de soucis pour toi, heureusement. Voilà. Bon, alors, je reprends pour vous le programme de la soirée. Qui va être très intéressante. Donc nous allons parler de bikepacking, choisir une première épreuve pour les débutants. Non, on va d'abord parler de vélo fait à la main, parce que je sais que toi c'est quelque chose qui te plaît énormément, je sais que Vincent c'est quelque chose qui te plaît énormément, et Thomas adore ça aussi. Choisir une épreuve lorsque l'on débute avec ce vélo. Et comment se préparer à cette épreuve susnommée avec ce même vélo. Donc, je vais laisser la parole à Thomas, en premier, qui nous a lancé sur la voie des vélos un petit peu faits à la main, avec peu de moyens, mais avec au final un vélo qui fonctionne très bien. Vincent, Vincent, tu vas te présenter un petit peu, parce que j'ai dit que tu étais mon nouvel associé technicien, qui n'est pas foutu de brancher un micro. Donc, tu vas commencer par nous dire ce que tu fais dans la vie en vrai, et qui es-tu ?
Du coup, moi, je m'appelle donc Vincent Vergès. En ce moment, je m'occupe de construire la deuxième version de Swazzle pour avoir quelque chose de plus cool, plus facile à utiliser, où on n'aura pas besoin de Richard pour recadrer une photo.
Merci.
Et puis, et à côté de ça, ça fait 15 ans, ou un peu plus de 15 ans que je fais du vélo. J'ai bossé 10 ans dans des magasins. J'ai fait de la descente, de l'enduro, un peu de dirt, je suis venu au voyage un peu traditionnellement et après j'ai découvert le bikepacking et depuis 2 ans je me suis reconverti, donc je suis développeur, donc j'essaye d'allier mes deux passions, notamment avec cette association avec Richard. Et du coup j'ai fait un peu de bikepacking mais jamais en compétition et disons que cette année c'est un peu l'année du Grand Est.
Ouais, voilà. Enfin, sauf que ce que tu avais prévu, les épreuves que tu avais prévues sont certainement annulées. Donc il va falloir reporter un petit peu tes ambitions, mais ça c'est le cas de tout le monde et c'est pas bien grave.
Voilà.
Ce qui compte c'est la santé. Voilà. Bon Rémi, tu m'excuseras, oui, mais je vais pas te présenter parce que honnêtement tout le monde te connaît.
Oui, je pense à force de me présenter, ça devrait rentrer.
Et ça finit toujours par rentrer, surtout en ces périodes de confinement. Voilà. Ceux qui ne te connaissent pas, je les encourage à écouter les deux premiers épisodes du podcast Spotzel, ainsi que l'épisode qu'on avait fait en débat avec Paul et Maxime et Christophe. Et puis, évidemment, ils peuvent te contacter par Messenger. Donc, on va laisser la parole à Thomas maintenant. Comment on construit son vélo avec 3 fois rien pour faire un vélo qui tient la route pour un maximum de, on va dire, 1500 euros. C'est parti.
C'est large. Ok, bon, mais ça c'est l'enveloppe à louer, donc on va essayer de faire quelque chose de sympa.
Je pense que c'est la pizza.
Oui. Ah, d'accord. Ok, bon, ben écoute, moi j'ai envie de dire que pour se faire un vélo sympa, déjà je pense que la première chose à faire, et bonjour tout le monde, j'ai pas le temps de saluer tout le monde, bonjour à tous et bon rétablissement. Ce qui est important en fait, c'est déjà de se documenter. Je pense qu'avant de se lancer, C'est quelque chose qui est complexe, qui est piégeux. Il y a pas mal de petits écueils à essayer d'éviter. Première chose, c'est se faire une culture, j'ai envie de dire, générale sur tout ce qui est technique vélo. Pour ça, l'idéal, c'est si on lit l'anglais, de, je vous invite à lire des livres comme Zine. Alors, c'est un écrivain spécialisé dans tout ce qui est livre, une très belle littérature en anglais sur The Art of Mountain Bike Maintenance ou Road Bike Maintenance, qui sont des livres extraordinaires. Les manuels de Zine, je ne sais pas s'ils ont été traduits en français ou pas, ou le Big Blue Book par exemple de chez Parktool. Bon, là, Calvin Jones, c'est une référence. Et pour les feignants, vous avez plein de vidéos sur YouTube. Donc les millennials, si j'ai envie de dire les jeunes. Donc on peut trouver bon des vidéos intéressantes, mais allez voir des vidéos de sites de référence comme Parktool, hein, les fabricants bien connus de d'outillage, qui expliquent très 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 bien. Donc voilà, ça c'est la première base. Ensuite, c'est la, je dirais la base technique. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher un petit peu qu'est-ce que vous voulez faire avec ce vélo. Voilà. Est-ce que je veux me faire un vélo pour faire de la rando, du gravel, du bikepacking, un peu plus engagé, un peu moins engagé? Et après, je dirais que c'est d'aller vers un petit peu une forme de vélo. On peut classifier avec le plus basique, le plus économique, qui peut être le VTT. Ensuite, on peut aller vers du gravel, qui va permettre d'être un vélo plus léger, plus rapide, pour pouvoir déjà aller performer un peu plus déjà sur de la piste, sur du roulant. Entre les deux, que j'aime beaucoup, le Monster Cross. Donc, petite définition du Monster Cross, ben, c'est vraiment le croisement entre le gravel et le VTT. On va trouver un drop bar, on va trouver des gros freins, des gros pneus, éventuellement des développements un peu plus sympas. Et à partir de là, ça va nous aiguiller, je dirais, vers une famille un petit peu de vélo. Voilà la première analyse. Et puis, bien sûr, la base de tout, c'est le cadre. Donc, ça peut être du détourné, carrément. Ça, c'est un peu plus hardcore, c'est-à-dire on va prendre un vélo type vieux 4 VTT, tout ça, et puis après lui greffer dessus éventuellement un drop bar en jouant sur les longueurs de potence pour corriger. Il faut savoir que la géométrie du vélo, elle va être très différente s'il est destiné à avoir un guidon droit classique type VTT ou un guidon courbé type course, drop bar comme on dit en anglais, où là justement ben, il faudra jouer éventuellement sur les potences pour trouver un équilibre. Et après, attention à pas faire n'importe quoi non plus pour pas se retrouver dans des positions trop mauvaises où on va se péter le dos ou des choses comme ça. Bon, est-ce que là j'invite les autres à réagir sur déjà ces premiers points là est-ce que ça vous paraît déjà bon en termes de débroussaillage?
Ah oui, bon, c'est déjà très très bien. Oui, déjà l'essentiel qui a été dit sur la base, quoi. Après, voilà, c'est ça. Le Monster Cross, c'est vraiment une alternative qui est vraiment bonne entre le VTT et le gravel. Et les Américains parlent même plus de dirt drop bar. Donc, c'est-à-dire que comme c'est assez inclassable entre le VTT, le gravel, le vélo de route, bah c'est dirt drop bar, donc un drop bar mais qui est fait pour rouler sur des pistes roulantes, enfin un VTT en gros, pour des pistes roulantes, un peu cabossées, mais assez roulant, quoi. Pas trop de technique et beaucoup de roulant de la piste, et voilà. Donc c'est ça, ouais. Non, c'est déjà bien.
C'est un bon débat. Rémi, est-ce qu'on peut dire que le vélo que tu avais sur l'Italy Divide, donc un proto Triban, ouais, avec des roues de 650 et des gros pneus, est-ce qu'on se rapproche déjà un petit peu du Monster ou du dirt bike?
Un petit peu, ouais. Là, c'est plus un gravel pour terrain technique, mais ça reste un gravel quand même, parce que lui, il a vraiment à la base une ADN route, très route. Donc là, on est plus sur un route qui va faire du chemin cassant, quoi.
Ouais. Voilà. J'ai l'impression, Vincent, t'as quelque chose à ajouter ?
Ouais, je voulais juste rajouter un truc. C'est vrai que quand on choisit un vélo, il y a les projets qu'on envisage. Et pour s'entraîner aussi un peu, on va faire ça souvent autour de chez nous. Et moi, je suis de la région de la Haute-Savoie. Et c'est vrai que j'ai un gravel. C'est pas un Monster Cross, hein, c'est un ogre, mais c'est en fonction des. Je monte différemment en fonction de ce que je veux faire. Mais aussi prendre en compte de ce qui nous entoure. C'est vrai que par chez nous, par exemple, c'est très orienté VTT. Je vois des fois des gens qui partent sur du gravel et qui sont relativement secoués, parce que c'est on part en gravel, mais en fait on va faire des sentiers qu'on peut faire en cross country. Et des fois c'est aussi à prendre en compte de pas se retrouver avec un vélo qui effectivement pour un projet précis va convenir, mais le reste de l'année où on va rester bloqué. Après, si on peut avoir plusieurs vélos, mais si on a un budget limité, c'est pas le but d'avoir vraiment plusieurs vélos.
Donc c'est vrai que c'est des fois à prendre en compte. Moi, je sais que j'ai des tout rigides jusqu'à présent pour le bikepacking. J'ai la traversée du Jura, je l'ai fait avec le Ogre, avec ma compagne qui était aussi avec un Ogre. C'est vrai que maintenant, par exemple, vu les sentiers qui m'entourent, même si je fais pas mal de gravel, là, je m'orienterai plus sur un cross-country bien léger qui permettra d'aller un petit peu plus loin et de faire un petit peu plus de choses et moins se limiter en termes de profil de sortie, quoi. Voilà.
Après, si je peux reprendre, Richard, si tu voulais dire quelque chose.
Alors, moi, j'ai rien à dire là-dedans.
Donc, pour reprendre justement là-dessus, pour rebondir ce que dit très justement Vincent, il y a un caractère un petit peu limitant, et puis c'est sûr que ben il faut penser à son environnement, il y a le projet, et puis il y a aussi ce qu'on veut faire après, et c'est vrai que avoir le maximum de polyvalence, c'est vraiment un confort, et puis un luxe, et puis un investissement aussi, parce que ben derrière, le vélo, on pourra se servir plus longtemps et plus souvent, ce qui est quand même sympa. Perso, je vous cache pas que je me suis fait plaisir il y a quelques temps, et un de mes vélos, j'en ai trois, allez. C'est que je me suis fait plaisir, je me suis acheté un Fargo. Et c'est un peu l'archétype pour moi du dirt drop bar, comme disait justement Rémi. C'est tout en restant simple, parce que depuis il y a eu le cutthroat qui est déjà beaucoup plus pointu, en carbone, etc. Alors pour la petite info, moi je suis pas un super top sportif et je me sens tout petit avec les gens que j'ai autour de moi ce soir. Je suis quelqu'un qui revient d'assez loin, qui a pesé plus de 120 kilos, qui est tombé maintenant autour des 100 kilos, qui maintenant fait des 200 bornes par jour, des choses comme ça, mais je reviens d'assez loin. J'ai un gabarit ben un peu costaud, je fais un quintal comme on disait à l'époque. Et donc les vélos taillés avec des systèmes de suspension, des haubans pliables et des choses comme ça, ou des suspensions un peu light. Moi, j'ai l'impression d'être sur un caoutchouc, hein. Donc j'ai pas répété. Donc voilà, donc il faut assumer aussi son gabarit, hein. Donc moi j'ai un gabarit un peu lourd pour un cycliste. Donc j'aime bien le rustique, le costaud, les cadraciers, hein, pour l'instant, ça reste quand même vraiment sympa. C'est le cadre, tu sais, tu peux mettre du poids dessus. Pour parler du Fargo, je suis pas payé par Salsa, hein. Mais le Fargo, c'est un vélo où on peut mettre jusqu'à du 29 en 3 pouces, donc du 29+. On peut descendre, on peut mettre du 27,5+, on peut mettre du 29, donc c'est super polyvalent. Dessus, on prend un bon choix de roues, on peut comme ça, à la limite, jouer avec une paire de roues. C'est-à-dire qu'on peut avoir du 27,5+ pour aller faire des choses un peu qui remuent, tout ça, comme on peut mettre du 29 avec des pneus, par exemple, en 2 pouces, en 50 mm de large. Et là, on va faire quelque chose d'assez roulant avec un bon profil de pneus. Donc, surtout que ce type de vélo-là, que ça soit Salsa ou l'autre société qui fait partie du même groupe, qui est sur Lib, plus orienté VTT, ils sont excellents. Moi, j'ai aussi un karaté manqué, voilà. Tu mets ce que tu veux comme roue, comme développement, comme pédalier. C'est vraiment une sorte de... Alors, je crois que c'est sur l'île, dans la présentation du karaté manqué, ils disent c'est la poubelle de l'atelier vélo. Dedans, tu peux mettre toutes les tailles de hub, de moyeu, tu peux mettre toutes les tailles de roue quasiment dedans. C'est magique, quoi. Donc ça, c'est vraiment des super plateformes. Plus économiques, on peut avoir des plateformes sympas, comme par exemple un Genesis, un Vagabond. J'ai eu ça, j'ai fait un joli trip que j'ai eu le plaisir de publier dans Spotzle l'été dernier. Et le Vagabond, par exemple, on va mettre de la roue VTT en 2 pouces, voire un peu plus. On va pouvoir mettre ce qu'on veut comme pédalier, etc. C'est un cadre acier très simple, très costaud, avec un niveau de confort, de position, de géométrie qui est vraiment sympa. Et c'est une très très bonne base. C'est un cadre qu'on va trouver autour de 500€. Donc, les 1500€, on y est large. Je viens de faire deux vélos pour un collègue sur des bases Vagabond. En gros, l'enveloppe moyenne, on est entre 1200 et 1300€. Donc, avec des freins hydro, avec des bons développements, des choses comme ça. Après, c'est sûr que le choix des composants... alors, je sais pas s'il y en a qu'on vu dans le groupe vélo, camping, gravel... Cet après-midi, j'ai posté une dernière révisitation que j'ai faite sur une base très économique avec un cadre à 200€. Que j'ai chopé chez nos amis de Planet X en Angleterre. Un cadre cyclocross avec cadre alu, fourche carbone, mais bien costaud, vraiment bien taillé. Il bouge pas celui-là, même avec mes 100 kilos, il bouge pas. Et on peut arriver à faire des choses vraiment sympas avec des tout petits budgets, même inférieurs aux 1000€. Hein. Et avec du freinage hydro, des choses comme ça. Ouais. Mais en étant raisonnable, en se disant bon ben je vais aller sur du 10 vitesses, parce que le 10 vitesses aujourd'hui sans perte de vitesse entre guillemets, c'est aujourd'hui des composants qu'on va pouvoir trouver soldés mais pour une misère. Les pièces d'usure, les cassettes, les plateaux, tout ça coûte une misère. Je vais mettre des roues VTT. Alors on va acheter des roues gravel. Elles vont coûter 500 euros la paire. On va trouver des roues VTT un peu fin de série et tout ça en attache rapide en QR. On va les payer 100 balles ou 200 balles. Ça fait le même job, tout ça et tout. Et à la limite, les roues VTT, elles seront taillées pour prendre du plus lourd, prendre plus de choc et tout ça. Et en termes de prix, ça coûtera une misère. Après, bon, on peut parler aussi de niveau développement, très important aussi dans le choix des pièces pour assembler le tout. Ça va être bien sûr le choix de la transmission. Ça, pour moi, c'est un choix qui est fondamental, surtout avec mon handicap de poids. Cas de le dire, quand je veux pouvoir rouler un peu chargé, quand je veux pouvoir me taper des bonnes montées, hein, que ce soit un peu quand je vais vers les Alpes ou sinon dans la montagne noire par ici, voilà, mes 100 kilos plus mes 15 kilos de vélo et les 15 kilos de matos, je veux pouvoir les monter sur du 15% pour monter au pic de Nord ou aller dans la montagne noire, passer de l'autre côté de l'autre, tout ça. Donc voilà. Après, quand on fait 65 kilos et qu'en mono, voire en single, bon, vous avez tout mon respect, mais c'est pas pour moi.
Mais c'est important de ce que tu dis, parce qu'il faut aussi prendre en compte, je pense, si on est débutant, enfin, le niveau qu'on a en vélo aussi, parce que les premières fois, on va avoir tendance à forcer un peu, etc. Et ce qui aide beaucoup quand on commence à faire de la distance, c'est aussi les tendinites. Et ça peut vite nous bouffer un trip à cause d'un mauvais développement, quelque chose qui ne vient pas assez, etc. Donc c'est vrai que le développement, c'est vraiment important.
Je confirme là-dessus, parce que je suis parti sur la French Divide, donc c'était ma première épreuve. Ouais. Donc avec un Surly Struggler, donc bon, je reviendrai dessus après, mais avec un développement d'équivalent 42-42 au minimum. Donc plateau de 42 et courante de 42 à l'arrière. Ouais, donc j'ai fini avec 4 tendinites, hein, les 2200 km. Ouais. Donc ouais, j'ai morflé. Ouais, j'ai bien morflé. Et depuis, je suis descendu sous le ratio de 1, parce que c'est vrai que c'est pas assez. Et qu'il faut pouvoir mouliner. Et c'est plus important, c'est ce que je dis en bikepacking, en gravel, en VTT, ce que je fais principalement. On roule rarement au-dessus de 22-25 km/h, allez. Donc à partir du moment où les vitesses les plus petites permettent d'aller à 25, eh ben on descend au maximum, quoi. Le but, c'est de pouvoir mouliner. De toute façon, c'est le plus important. Faut jamais forcer. De toute façon, c'est la règle en longue distance. Faut jamais se forcer. Si on force, on consomme de l'énergie et on bouffe les muscles, les articulations, et c'est là où on se casse, en fait. Et on peut pas repartir le lendemain.
Ouais. Bah, surtout que tu déjà un 40-42 en grand plateau et 42 à l'arrière, c'est déjà un développement correct pour un coureur en gravel, qu'on va avoir des gabarits légers et des vélos légers, et rien que ça sur le vélo. Et un vélo de bikepacking, par définition, il va être super chargé. Donc si tu rajoutes 5, 7, 10 kilos, ça consomme une énergie terrible.
Ah oui. Donc, on y laisse des plumes, quoi.
Tu vois, là, maintenant, même maintenant, sur mon, donc, le nouveau vélo que j'ai le GRX double plateau, et j'ai 30-34.
Ah oui.
Donc, un petit plateau de 30 et une grande couronne de 34. Et ça change carrément tout. Donc moi, je suis léger, le vélo est léger, et dans des pentes vraiment vraiment serrées, vraiment pentues. Maintenant, je remonte en plus. Donc ça, c'est vraiment agréable en plus. Et comme on disait dans l'autre live sur l'entraînement de la force, et c'est aussi valable pour les développements. Si on a les développements adaptés, c'est aussi moins de temps qu'on va passer sur le terrain, moins d'énergie qu'on va dissiper bêtement. Donc moins de fatigue au final, moins de tendinite,
du confort et de la fatigue.
Et surtout, au final, une expérience d'épreuve ou de voyage bien plus intéressante que si les souvenirs, c'est j'étais collé dans les côtes parce que mon vélo est trop lourd, parce que j'avais pas les bons développements, parce que j'ai fini avec des tendinites au tendon, au genou, partout. L'expérience et les souvenirs que l'on va avoir ne sont pas du tout les mêmes.
Non. Et puis c'est vrai qu'on peut se permettre sur une sortie du dimanche, disons, de aller dans la montée, aller chercher les appuis, aller forcer les articulations, les muscles. Ouais, ça passe la sortie du dimanche, mais pas en bikepacking. On fait une montée comme ça, deux montées, au bout de la dixième, on arrête et on déclare forfait, quoi.
Mais grave. Voilà, c'est bien. Ça, c'est bien pour la préparation, parce que tu sais que tu vas rouler 2-3 jours consécutifs et qu'après tu te reposes. Mais une French Divide, c'est 11 jours.
C'est 11 jours, ouais, c'est ça.
Donc, et même une North Trail qui va être plate et qui va faire 2 jours et demi, 3 jours pour les plus rapides. Si on est mal préparé, qu'on a toujours roulé avec un vélo à vide, et ça peut surprendre.
Ouais.
On n'est pas du tout dans les mêmes choses et c'est très 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 important justement de pas se faire polluer par tout ce qu'on peut lire à gauche à droite, gars qui tirent des développements monstrueux, qui ont des caisses pas possibles, tout ça et tout. Il faut être humble, conscient de ses capacités, de ses limitations, etc. et faire avec au mieux, parce que de toute manière, il y a un moment, tu bouffes ton capital ligament, ton capital articulation, ton capital moral aussi, parce que comme disait Richard, quand t'es là à faire de la poussette et tout, avec ton espèce de caddie, là, tu te dis, mais je suis une mamie avec mon caddie, là, qu'est-ce que je fais à pousser en haut de la colline? Non, c'est la misère. Non, je pense que ça, c'est très important. Alors, on peut trouver des petites astuces. Alors, par exemple, tu parlais du GRX, Richard, qui est très intéressant. Donc, le 3046, qui est déjà un premier pas, je dirais, dans quelque chose de polyvalent pour le gravel. Alors, le 34, c'est la donnée d'origine pour le dérailleur arrière, le GRX 400 ou GRX 600, si t'es en 10 ou en 11. Le, pour info, par expérience perso, le 36 passe sans problème derrière. Il y a une très bonne cassette qu'on peut trouver qui est la HG81, l'ancienne SLX, mais VTT, que tu payes une misère, qui va très bien, justement, en 36 derrière, en 36. Et alors, sur le Fargo, j'avais par exemple le problème, c'est mon vélo qui me sert plus vraiment bikepacking. Le Fargo, j'avais le problème de vouloir mettre du gros pneu derrière et je voulais mettre justement d'avoir la possibilité de mettre vraiment beaucoup de développement avec mon poids, avec le chargement, tout ça. Et j'ai trouvé une astuce en fait en prenant un pédalier XT. Le pédalier, c'est le M8000, les anciens XT, donc tu trouves pas très cher, même de seconde main. Maintenant, plein de gens vendaient les pédaliers parce que c'était du double plateau, oulala. Pas beau. Et donc, tu peux trouver des plateaux en 11 vitesses, tu peux mettre du 24-34, 36-36 ou 28-38. Donc 24-34, 26-36 ou 28-38. En fait, tu prends un dérailleur avant ancienne génération 10 vitesses que tu mets sur l'adaptateur boost. Bon, là c'est un petit peu technique, je pourrais mettre des photos si vous voulez, pour pouvoir mettre un dérailleur 10 vitesses à l'avant VTT qui va supporter jusqu'à un gros plateau de 38, et tu mets le petit plateau devant de 24. Ça te fait un 24-38, et le 24-38 avec 11-36 derrière, c'est un régal. Parce que 24-36, tu vois le rapport que ça fait, je crois que c'est 0,75 ou 0,76 si je compte bien.
0,75,
donc là, il y a vraiment possibilité.
Ouais.
Ah ouais, là, tu peux moulider, fin de journée, crever, machin, tout ça, pas de problème. Et 38 avec 11 derrière, c'est très, 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 très bien. Là, tu fais des jolies descentes.
C'est ce que j'ai sur le gravel, moi, au minimum.
Voilà.
Même dans le Nord, ça me suffit largement.
Il y a des terrils, les parais, Richard. Non, non.
La bonne expérience de Richard.
Ah bah oui, chaque épisode, faut qu'il en parle. Tu veux qu'on en parle, Richard?
Alors oui, on va en parler. Les terrils, au-delà du fait que c'est une monstruosité esthétique, on voit pas l'intérêt de mettre des gros tas de pierres au milieu de rien. Histoire d'être précis, mais j'en ai déjà parlé, j'ai fait mon mea culpa, je me suis pointé dans les terrils pas préparé et pas prêt à m'orienter dans les terrils, tout simplement. Mais cette année, j'étais prêt et je déplore vraiment que l'épreuve soit annulée. Enfin, je déplore pas. C'est tout à fait logique, donc ce n'est que partie remise. Notre petit plaisir de cycliste attendra et on a une urgence sanitaire à régler avant ça. Et le vélo là-dedans, c'est dérisoire. Si vous le permettez, je vais prendre la question de, je crois que c'est Christophe qui me dit, petite question technique, j'étais en 36-46 et 11-42. Impec, mais mon 46 arrive en fin de vie, je ne trouve pas trop de 46. Est-ce que vous avez des conseils pour un 46 mono ou autre? Est-ce que c'est ça, Christophe? Donc, sachant que tous ceux qui écoutent, tous, là, vous tous qui écoutez, vous pouvez intervenir dans le chat pour poser vos questions et interagir avec Vincent, Thomas et Rémi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour ça. C'est du live. Bon, c'est pas Christophe, mais c'est pas grave. Donc, eh ben, on pose quand même la question. Donc, notre ami ne trouve pas de plateau de 46. Comment qu'on fait quand on retrouve plus le panneau, le plateau qui nous plaisait?
Alors là je pense donc il a, alors là c'est un pédalier cyclocross, ça, du 36-46, typiquement, hein, je pense. Donc on est sur un anthrax. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pédaliers, on va avoir des anthrax au niveau du roulement de pédalier qui vont être chez Shimano par exemple, soit route, soit VTT.
Ensuite... Il nous précise bomb track. Regarde Thomas, regarde dans le chat. Il nous précise
bomb track.
Ouais, c'est bomb track.
Après, voilà, il y a du spécialité TA, il y a quelqu'un qui va te le mettre, là, Fred. Il y a de l'adaptable, donc faut pas hésiter à aller voir le bon vélociste du coin, ou sinon sur Interminet. Mais en général, on peut trouver assez facilement quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de plateaux adaptables. Après, mais, à un moment, tu disais, il voulait parler de passer en mono en 46.
Ouais, ça non. Fait beaucoup mono 46
quand mono même. Ou autre non mono 46 mais à la limite il habite dans la Creuse, il a une caisse d'enfer
La Creuse, félicitations, si tu dis ça c'est que t'es jamais allé en Creuse, hein, parce que ça grimpe la Creuse.
Ouais, ça grimpe, hein.
Ah ouais, tant que ça.
Ah ouais, c'est horrible.
Non, je sais pas, mais
moi j'habite en Beauce, un 46 ouais. Passerait, mais alors en Creuse, jamais de la vie.
Non, mais je pense d'accord, que okay. Par contre c'était plus passer en monoplateau à la place du double en fait.
Ah ouais.
Là il passait en 34 ou 36 et garder le 42.
Alors en 42 en grand plateau ça fait grand, ou alors avec des routes 650.
Ouais, mais là je pense que s'il veut passer sur du mono, je pense que sur un 38 ou un 36, ouais, ça dépend du profil de terrain qu'il a et puis surtout ouais. De la polyvalence qu'il veut garder ou pas.
Ah oui, puis si,
parce que le double
si c'est un costaud, hein. Simplement, mais puis ça, si c'est pour du bikepacking, 36-38 ira beaucoup mieux.
Ouais. Après, il y a quelque chose d'assez sympa. Ça, c'est ce que j'ai mis sur le dernier gravel avec le que j'ai fait, c'est en début de mois là avec le cyclocross, le cadre à pas cher de chez Planet X, vraiment excellent. J'ai un vieux pédalier en 28-42. C'était la période du 10 vitesses en VTT. Alors, il s'en est fait plein. On les trouve d'occasion en SLX et tout ça pour une misère. Et c'est vrai que le 28-42, je trouve pour du gravel, c'est vraiment sympa. Parce que après derrière avec du 11-36, des choses comme ça, ça passe selon le type de dérailleur qu'il a. Mais passer au mono, il y a une caisse d'enfer, il roule pas chargé, il n'y a pas de dénivelé, tout ça, ça passe, hein. Avec un 36 ou un 38. Mais bon, c'est une question de conditions physiques, mais pour moi, bikepacking et mono, on se limite pas mal quand même. Ouais, ou alors bah, vraiment, on est sur du 32 ou du 28 ou
ouais, du 30. Voilà. Ouais, moi l'an dernier j'avais fait un montage pour ma copine sur une base de cadre VTT, donc sur un Salsa Moto Rapido, et on l'avait passé en mono il y a en 34, donc en monoplateau pédalier 34 et avec un set de 11-42. Et c'était bien passé, pour la Bretagne c'était bien passé, bon sachant que c'est la Bretagne, mais les côtés, les bosses de la Bretagne quoi, hein. On connaît Fred et puis c'est les bosses techniques. Mais c'est vrai que ouais, c'était un bon montage le Salsa Moto Rapido, là, et puis c'était un... C'était un cadre VTT 26 pouces sur lequel j'ai monté donc j'avais eu à 120€ sur le bon coin qui avait jamais été monté, sur lequel j'ai monté des roues en 650. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur un cadre 26 pouces, des roues en 650 avec un pneu de 47, ça passe nickel, ça passe vraiment très très bien. Donc pour le peu que le cadre soit à disque, eh ben, on peut le monter en gravel facilement, bah, comme tu disais, en adaptant la longueur de potence pour monter un drop bar, donc en raccourcissant et en relevant un petit peu. Et là, oui, ça faisait un super montage. Et au final, sur le vélo, donc là, c'est un cadre en scandium. Donc, c'est un alu un peu spécial, un peu sec, bon, qui est un peu cassant parfois, mais qui, là, c'était pour du bikepacking tranquille, donc ça allait. Et là, on avait un cadre, enfin, un montage qui faisait 900€ en tout, max, et pour 9,2 kg. Donc, voilà, on avait un truc qui commençait à être performant pour, voilà, moins de 1000€, quoi. Donc là, et là, le vélo chargé complet, il était à 14,5 kg ou 15 kg, quoi. Enfin, c'était, et tous ceux qui l'ont essayé, il y a encore pas longtemps, je l'ai fait essayer à une personne, et elle voulait pas, elle voulait le garder, quoi. Je fais, mais non, ce vélo, il est exceptionnel. Je fais, bah ouais, je le sais. Mais ma mère, et con, il est trop petit pour moi. Mais sinon, c'est un bon vélo. Et voilà, et pour pas grand chose, on avait fait ça. Et Emilien Duborpé, on va le citer, hein, tout le monde connaît bien Emilien, elle est partie sur un montage dans le même genre. Donc à partir d'un cadre qu'il a récupéré à On One, il est parti sur ce genre de montage. Et c'est vrai que ça peut faire des montages intéressants aussi sur base de cadre VTT 26. Ouais. Parce que comme ça, c'est plus simple pour adapter.
Ouais. À propos de bons cadres sympas, et s'il y en a qui veulent se faire plaisir, je vous invite à regarder, pour ceux qui seraient intéressés, à se faire un montage vraiment typé bikepacking avec possibilité de portage. Bon, à la base, c'est un cadre qui est plutôt orienté VTT. Maintenant, comme il disait Rémi, justement, avec des adaptations de potence, choses comme ça, on peut faire des choses sympas. En ce moment, on peut avoir des super produits toujours chez On One. En cadre neuf, payez ça 200 € chez Planet X. C'est des cadres acier avec fourche rigide. Ah oui, en ce moment, il y a la parité en plus. Donc, ils sont en promo. Donc, 240 € livrés, un truc comme ça, 235. Avec fourche rigide disque. Le 650, il est en entraxe normal avec axe traversant. Et le 29, il est carrément en boost. Donc là, pareil, ça peut faire une sorte de salsa du pauvre, quoi, hein, ou de surlit du pauvre. Mais vous avez fourche plus cadre acier avec des normes récentes au niveau de tout ce qui est montage et tout, donc très facile pour trouver de la pièce. Bon, de base à 230 €. Donc c'est pas forcément un sport de riche, pas trop, quoi. Voilà. Ouais, après, c'est des jolis montages.
Depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle pas mal de vélo, etc. Mais dans la pratique du bikepacking, il y a quand même, surtout si on a vraiment rien et qu'on débute vraiment, il y a quand même une part du budget au niveau des sacoches et de quoi dormir, etc. Alors après, il y a plusieurs solutions. Mais il faut aussi s'y veiller un peu parce que, bon, des sacoches à Lidl à 10 balles, il n'y en a pas toutes les 5 minutes non plus. Il y a quand même, il peut vite y avoir un budget pour dormir, un duvet, enfin, ne serait-ce que des sacoches, si on se comprend, ça peut vite aussi faire un budget. Et c'est quand même aussi à prendre en compte quand on dit j'ai mis 500 €, si c'est pour tout s'équiper, il peut y avoir une bonne partie qui est tronquée aussi par tout ce qui est là à côté. Après, on peut toujours se faire prêter ou ces choses-là, mais c'est vrai que moi, je sais que pendant 2, presque 3 ans, j'ai vendu du matos de bikepacking. Et des fois les gens ils avaient un budget, puis après je leur dis ouais mais vous avez un duvet ou vous avez des sacoches, vous savez ça. Ah non, bah en plus à l'époque les sacoches étaient encore chères, il n'y avait pas de marque qui était très 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 bon marché comme aujourd'hui, mais c'est aussi à prendre en compte quand, au-delà du vélo.
Ah oui, non, mais ça fait partie intégrante du bikepacking. C'est vrai que souvent moi on me demande, bon ben c'est quoi le truc idéal, la sacoche idéale, le duvet idéal. Ah ben il n'y a pas de solution ultime, c'est une solution pour chacun. Et alors surtout une solution en fonction du budget, parce que moi ce que j'ai toujours mis en avant aussi, c'est le rapport qualité-prix. C'est que si on veut s'équiper au plus cher, on peut toujours. De toute façon ça c'est toujours. Après il y a les produits de luxe même dans le bikepacking. Mais moi ce que j'ai trouvé des alternatives pour tout ce qui est campement, dès que j'ai commencé, j'avais pas de thunes. Moi quand j'ai fait un French Divide, j'avais rien en poche. Et je me suis dit je vais chez Decat, hein. Et puis c'est tout. C'était duvet Decat, matelas Decat. Bon, le Bivy, j'avais un peu investi, j'avais pris un North Face, mais bon, au final, je l'avais payé moins de 100 €. Je m'en sortais bien. Et même le Bivy que j'ai actuellement, en cherchant un petit peu, je me suis fait faire un Bivy sur mesure. Bon, j'en parle tout le temps, on me pose tout le temps des questions sur le Bivy. Je me suis fait faire un Bivy sur mesure aux États-Unis pour 90 €. Donc, il est génial. Il est vraiment génial.
Ouais, je vais boire 200 grammes.
Ouais. Donc là, souvent on dit on va acheter des Bivy à 150 €. Enfin, Bivy, c'est un sac poubelle, hein. Enfin, clairement, avec poubelle qui respire un petit peu. Donc ouais, mais faut. Et là, je vois chez Decat, pour pas les citer, chez Quechua, ils ont sorti un Bivy. Là, maintenant ils ont un Bivy, ils ont des bons matelas, en plus des demi-matelas, donc qui permet un peu d'avoir du produit au niveau.
Pour l'été, c'est bien, ouais.
Ouais, pour l'été, puis avec des poids intéressants, des encombrements intéressants. De toute façon, moi j'ai fait l'Écosse. Avec un matelas, donc il y a 6 mois de ça, enfin il y a un an de ça plutôt, avec un matelas D4, et parce que j'avais crevé le mien avant, et du coup, c'est tout, je prends ça, et c'est très bien passé, il marche très bien. Donc ouais, c'est vrai que si on n'a pas trop à investir, c'est une bonne solution. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, c'est juste D4, parce que c'est facile, c'est accessible, c'est pas loin, on a tous accès à un D4 long, c'est la facilité, mais il y a d'autres solutions. Après, pour les sacoches, ça, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que il y a pas encore de grosse démocratisation. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dépasser, des sacoches pour pas les citer, AliExpress ou autre, mais qui sont au final, quand on les voit, elles sont pas terribles et c'est pas résistant, ça craque vite et ça prend l'eau. Quoi.
C'est vrai que les sacoches, ça vaut le prix que ça coûte.
Ça vaut le prix que ça coûte. Mais moi, quand j'ai commencé, le bikepacking, donc sans porte-bagage en 2013, il y avait zéro sacoche. Et c'était simple, c'était un dry bag, des sangles et basta.
C'est ça.
C'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Et ça marchait très bien. J'ai traversé, j'ai fait toute la traversée des Ardèches, Gare, et puis je sais plus quel département encore dans ce coin-là, mais rien qu'avec ça. Rien qu'avec deux sangles à scratch que j'avais trouvé chez Laura Merlin, des dry bags de 20 litres, deux dry bags de 20 litres que j'avais eu chez D4, et j'en avais un accroché au cintre, un accroché à la selle, et puis c'était tout. Hein. Et ça se passait très bien.
Mais d'ailleurs, si tu vas sur le bikepacking centre, bikepacking.com, il parle encore de cette solution parce que ça coûte pas cher. Un dry bag, ça coûte
15 balles, 20 balles.
Décathlon m'en a des très bien et très costauds. Hein.
Ils sont très costauds, je les ai depuis 2013, moi. Et encore aujourd'hui, je les utilise encore aujourd'hui. Ah ouais, et ils sont géniaux. En plus, ils ont une valve pour évacuer l'air et tout, donc ils sont vraiment bien. Non, il n'y a aucun problème là-dessus.
Ça, c'est vrai que les sacoches, honnêtement, c'est difficile. Excuse-moi, Richard.
Vas-y, je te laisse terminer. Après, ouais. j'ai une question à vous soumettre.
Les sacoches, c'est un point important. Moi, il y a un point assez important où là-dessus, on n'est pas encore assez bon, je pense, en France et aux États-Unis, ils sont pas mauvais. C'est vraiment l'utilisation, la prévalence de la grosse sacoche de cadre pour mettre la flotte dedans, une poche, là, dans un camelback ou autre, et mettre du poids et en fait charger bien à ce niveau-là, quoi. C'est vrai que le point où moi je mets un peu plus d'argent, c'est la sacoche de cadre pour avoir quelque chose d'adapté. Et ça reste quand même le plus important. Après, j'aime bien les sacoches à support, type ce que fait entre autres, je pense à Vod, Fraude, comme ils disent les Allemands, avec un système dessus, ou Rostrap, je pense qu'ils font la même chose, où t'as le support de la sacoche sur le cintre ou sur la selle, et tu peux sortir le dry bag. C'est un côté pratique vraiment sympa, et puis surtout polyvalent, parce que tu peux mettre le dry bag que tu veux dedans et tout, ça fait vraiment le support, l'ancrage. Il y a encore des choses à faire.
Oui, et puis après, je vois les questions, deux secondes, Richard. Je vois les questions, c'est vrai que l'occasion, le matos d'occasion, et ça, c'est intéressant. Moi, j'ai trois quarts de mes sacoches, je les ai achetées d'occasion, là-dessus, dès que j'en vois passer, je saute dessus et c'est vrai que ça se vend très vite. Et puis même moi, quand j'en ai à revendre, je les revends très vite. Donc ouais, c'est vrai que l'occasion, c'est un autre point. Et c'est pour les sacoches de cadre, pour revenir là-dessus, il y a beaucoup d'artisans locaux, de personnes qui font des sacoches pour des prix vraiment abordables. Pour une centaine d'euros, on a une sacoche de cadre qui tient la route. Hein. Ouais. Ouais, ça peut se faire. Faut se renseigner à proximité de soi. Il y a toujours quelqu'un pour... on en voit passer sur Facebook, il y a différentes personnes qui font des sacoches sur mesure. Bon, au pire, il y a Restrap. Chez Restrap, ils sont pas chers du tout. Et c'est du très bon matos.
Oui, et puis si tu sais un peu coudre, le tissu, même un peu technique, aujourd'hui, ça se trouve assez facilement en Allemagne. Et tu peux aussi faire ta propre sacoche. Moi, je l'ai fait, je savais pas vraiment coudre. La première fois, j'ai mis une grosse journée, mais c'est franchement accessible.
Oui, c'est le plaisir de l'avoir fait soi-même aussi.
C'est ça.
Ouais. Ça peut être la bonne idée pour ces temps de confinement. Je note.
C'est vrai,
On va faire un atelier. On va faire un atelier sacoche, un peu comme les mamies qui font du tricot. Là, je pense qu'on va faire un truc comme ça à tous. Et ça peut être l'occasion.
Après, il y a quelqu'un qui posait une question par rapport au sac à dos sur le flashbacking.
Ouais. Oui. Alors... Ouais, ça vous embête si je parle un instant?
Non, vas-y, Richard.
Merci. Vous êtes vraiment aimable. Donc, moi, je voulais vous proposer un atelier scrapbooking parce que ça fait une semaine que je regarde les trolls Et du coup, bah, ça parle beaucoup de scrapbooking. Donc, je voulais vous proposer ça, mais on va plutôt faire un truc sacoche. Juste une réflexion sur le matos bikepacking en occasion. Et bah, comme c'est une pratique bah, fort à la mode, mais on voit aussi passer pas mal de touristes qui viennent faire ça, essayer, et puis finalement se rendre compte que c'est pas du tout pour eux. Ça va aussi générer pas mal de pas mal d'occases et pas mal de bonnes affaires. Oui. Et du coup, et le sac à dos, mon vieux père Toc, qui est d'ailleurs Thomas, lui aussi dans le sud-ouest, il est à Montauban. Et le sac à dos, c'est pas conseillé du tout pour démarrer les flash packing. Eh ben les gars, je vous laisse répondre. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà.
Ouais, c'est simple, le sac à dos, quand on fait du vélo, on fait de la. Moi, je faisais de la rando avant, donc je me suis dit, sac à dos, vélo, c'est simple, très bonne idée. Eh ben, au bout de 20 bornes, on comprend que c'est une très mauvaise idée. 20 bornes, ouais. Ça suffit. À 20 bornes avec un sac à dos à 10-12 kilos, et là, c'est tout, et on arrête. Parce que le poids qu'on a sur les épaules, on l'a sur la selle aussi. Donc ça, on a vite compris.
Ouais.
Ah, c'est la cata. En plus, on n'est pas du tout positionné de la même façon. Quand on est plié sur le vélo, plié entre guillemets au moins à 20, 30, 45 degrés sur le vélo, il va porter très différemment. Et en fait, la colonne vertébrale, elle est faite pour prendre du poids quand elle est verticale. Ouais. Et quand elle est verticale, il y a l'empilement en fait éléments de la colonne. Quand on est en incliné, et ça travaille vraiment d'une manière catastrophique. Donc pour tout ce qui est épaules, dos, etc. et tout, c'est vraiment la bêtise pour parler poliment à ne pas faire.
Ah oui.
C'est horrible.
Une seule fois. En plus, quand tu le fais en VTT, genre à traverser des Alpes en VTT, tu fais monter et que tu descends et que t'as ton sac qui est chargé et que ça se coud et que ça machin, c'est à la fin, t'as plus des trapèzes,
t'as des trous dans les trapèzes. Les frottements, non, c'est horrible.
Et le mal aux fesses aussi.
Parce voilà, mal aux fesses.
En plus, au lieu d'avoir mal au cul au bout de 6 heures, t'as mal au cul au bout d'une heure. Donc merci.
Ouais, complètement.
Le seul truc à la limite, c'est se prendre un petit camelback.
Oui.
Cet été, j'ai roulé fin juillet, il faisait vraiment super chaud, j'ai sué comme un goré. Je buvais jusqu'à 8-9 litres par jour et tout, donc j'étais parfois un peu juste avec les 2 litres dans le cadre. Et donc j'ai pris le camelback avec 2 litres de plus dans le dos. Mais bon, ça fait chaud, tout ça et tout, c'est pas gêne non plus. Mais j'irais vraiment une toute petite charge. Un complément de flotte, tu mets les papiers, le téléphone, l'appareil photo dedans parce que tu vas poser ton vélo, tout ça, plus tranquille, mais vraiment pas le sac à dos avec le poids. C'est le plus bas possible, c'est de la logique, hein. C'est le plus bas possible, c'est le plus centré possible. Parce que c'est souvent, moi je vois des gens, ils mettent plein de flotte par exemple sur la fourche. Parce qu'on c'est sympa de pouvoir mettre du poids sur la fourche. Bon, typiquement sur le Salsab et sur le Fargo, t'as carrément les 6 attaches et tout, bon les 4 attaches, tu peux mettre des trucs monstrueux dessus. Mais mettez du volume, mettez pas du poids. Au niveau du guidon, au niveau de la fourche, mettez du volume, pas du poids. Et le poids, ben la flotte, les boîtes de cassoulet, je sais pas quoi, les canettes et de bière. Allez, au milieu, dans le cadre, le plus bas.
Dans le cadre, c'est ça. Outils, tout ça. Au milieu, c'est mieux. On va tout recentrer, c'est pareil. Moi, pour les sacoches de sel, moi, c'est une catastrophe, les sacoches de sel. Je vois les sacoches de moi, plus de 12 litres, c'est pas possible, c'est beaucoup trop. Et attention, moi, c'est simple, dès qu'elle dépasse, la sacoche dépasse l'axe de roue arrière, c'est trop long. Et là, je le sens, le comportement, ça me va plus. Donc, il faut vraiment le minimum, enfin, pas le minimum, mais... Ah, 12 litres, c'est bien, mais je vois des sacoches de 17 litres, c'est impensable pour vous. Ouais. Sur un porte-bagages, oui, parce qu'il va être stable, mais une sacoche de sel, quand on la voit balloter, oh là là, non.
D'ailleurs, les premières versions de Riftrap, elles étaient ultra ballottantes, tu pouvais mettre des gros dry bags, et c'était un enfer, hein. ça pouvait être dans tous les sens.
Les Rapidura, c'est typiquement les premières sacoches comme ça. Oh là, c'était... la première Ortlib aussi, la longue, là. C'était énorme,
une banane. Garde-boue banane, sacoche, en fait, à la fin.
C'était un cône, hein, vraiment.
C'est vrai qu'il y a 3 ans, 4 ans, quand j'ai commencé à vendre des sacoches, on avait commencé à vendre du Happy Dura au début. C'est vrai que tout le monde voulait partir sur les plus grosses. Au bout d'un ou deux ans, on voyait que les commandes transféraient et les gens partaient plus sur du small que sur du large.
Bah,
et d'autant plus en VTT. Hein. D'autant ouais. plus en VTT.
Ah oui, 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 parce que moi, ça change totalement le comportement du vélo. Et en plus, je le sens, j'ai plus de fatigue dans les lombaires quand je suis chargé derrière. Mais c'est marrant. Hein.
Ouais, t'as fait un ballot, hein.
Ouais, ouais.
Juste pour finir sur le camelback, Thomas, bah, t'as entièrement raison et t'as tout parfaitement résumé. Je vais juste apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc l'année dernière, j'ai commencé avec un camelback un peu trop important, que je chargeais beaucoup trop. C'était sympa, mais beaucoup trop chargé. À partir du mois d'avril, j'ai eu un Chase Vest, donc qui est très léger, qui est fait pour les courses. Et si vous regardez les épreuves gravel aux
États-Unis,
les longues, ils ont tous ça. Et c'est vrai que c'est bien parce qu'on peut mettre 2 litres d'eau. On a des poches au niveau des
devant,
épaules sur les bretelles où on peut mettre notamment les clés de voiture pour le retour à la voiture. Ça, c'est très, très pratique. Ça évite de
paumer les clés.
Ça évite de les mettre dans les poches arrière et de les paumer bêtement, ce que j'ai fait également l'année dernière. pour ceux qui me connaissent, c'était le moment où, février où je revenais de ma grande période noire. Où j'étais allé, je m'étais fait enlever la bagnole la veille de partir en reportage. Le drone que j'avais la veille de reportage, la veille ne démarrait plus. Arrivé sur le lieu du reportage, ma valise était restée à Atlanta et moi j'étais à Guatemala City. Au bout de 3 jours au Guatemala dans la jungle, j'avais chopé la mort avec une papaye mal lavée. Donc j'ai été sur le 43 jours. Quand je suis rentré, j'ai voulu reprendre l'entraînement, je suis allé rouler dans le perche et en trifouillant mes poches, j'ai fait tomber mes clés de bagnole au fin fond du perche, donc c'est ma femme qui est venue me chercher. Donc là, trois semaines, mais c'était prémonitoire de ce qui m'attendait sur la Malténie. Donc rien de
grave. Ouais, c'est ça.
Du coup, il est obligé de faire des podcasts pour que les gens rapprochent parce que personne ne va l'approcher dans la vie réelle, en fait.
C'est chat noir. C'est ouais, mais tu le vois, tu crèves, en fait.
N'empêche que quand on veut parler de mauvaises expériences et de comportements inadaptés et d'expériences débiles, je suis désolé, mais moi, je peux apporter ma contribution parce que j'ai une belle expérience en la matière. Donc, carrément
crédible. Ça sent le vécu.
Carrément crédible. Et pour la Chase Vest, petit à petit, et plus ça va, plus je m'en éloigne. Et si la Malténie avait eu lieu, je pense qu'il y aurait eu juste eu de la nourriture dedans. Quelques barres et 2 parts de gâteau donc le poids naturellement aurait été éliminé au fur et à mesure de l'épreuve. Tout ce qui est outils maintenant, outils et chambre à air auraient été fixés au vélo. Donc maintenant sur mon spot, le multi-tool est intégré dans le porte-bidon, le porte-bidon du tube diagonal. Donc j'ai résolu avec ça le problème du multi-tool. La chambre à air de secours et le porte-bidon, le démon de pneu auraient été scotché au cadre. Et j'aurais juste eu une petite sacoche sur le tube diagonal et deux grands bidons. Et c'est tout. Vraiment le plus léger possible et le moins de poids possible sur les fesses. C'est surtout ça. Les trapèzes, c'est pas un problème parce que j'ai fait de la prépa physique tout l'hiver, donc les trapèzes sont ok. Ouais, je sais, je suis hyper malaise.
Le caisse, le bonhomme.
C'est le poids sur les fesses. Ouais, mais j'ai la taille fine maintenant, donc c'est hyper important. Voilà.
Et Fred, ouais, non, mais...
Fred de la Gravel Trobèze me dit amour, espoir et bikepacking. C'est le mec qui organise une course qui va être bientôt annulée en Bretagne parce que de toute façon
je me suis inscrit.
En plus la Bretagne vient être bientôt rasée parce que là avec tous les Bretons qui ont l'interdiction dans les bistrots, dans 2-3 jours ils vont être tous sobres, ils vont se rendre compte du bled où ils habitent et ils vont tous déménager.
C'est méchant.
Un petit peu.
Il y a le coup de Yaman aussi en Bretagne, faut pas l'oublier. Hein. Il y a pas que
Yaman. Ouais.
Mais tu mets dans la sacoche de cadre celui-là. Vu le poids.
Quand tu veux.
Il faut une remorque. Là.
Ouais. Mais ça peut servir de mèche aussi hein, quand t'as plus de préventif. Tu mets ça et ça bouge tout.
Ça sert à beaucoup de choses. Hein. Si t'as un mur à refaire et tout,
pour colmater une fissure, c'est nickel.
Tu mets un peu d'eau, c'est bon. C'est pas mal.
Bon, je vous propose qu'on passe sur choisir une épreuve lorsque l'on débute, parce que c'est une question qu'on m'a posée récemment. et j'ai promis d'y répondre. Donc, lorsque North l'on Trail, débute,
c'est bon.
Voilà, North Trail, bah, c'est exactement c'est ce que j'ai dit. Hein, voilà. comment on choisit une épreuve lorsque l'on débute? Laquelle et comment on la choisit?
Bah, déjà.
Enfin, alors, je te coupe ouais, un instant, vas-y, Rémi. J'en profite pour saluer Gildas, parce que bah, c'est un Breton, mais qui a quand même eu l'excellente idée de migrer au Canada. Et là, il vient de me dire, vous êtes des jaloux. Non, pas du tout. Donc, Gildas, tu sais que je t'aime beaucoup, donc je te passe un immense bonjour. Voilà, Rémi, je te laisse.
Ouais, ouais. Non, bah, déjà, le choix se fait, si c'est, bah, faire une épreuve route, gravel ou tout terrain, bah, sachant que l'épreuve gravel, ça veut tout et rien dire, hein, on le sait tous très bien. La French Divide, au début, c'était une épreuve gravel. Maintenant, c'est que, ça, bah, arrêter d'appeler gravel parce que les gens se peignaient parce que c'était pas du gravel à leur goût. Donc voilà, on a chacun une définition différente du gravel, faut demander à Fred aussi. Et gravel pour Braise, mais l'an dernier, tout le monde lui a dit, mais non, c'est pas du gravel, c'est du VTT. Il dit, bah lui, il a tout fait en gravel et c'est passé. Donc ouais, c'est vrai
l'année dernière, c'était de la natation l'année dernière.
Oui, oui, c'était exceptionnel.
Ouais. Oui, bien sûr. Mais la question, ouais, après, en fait, c'est pas est-ce oui. que c'est gravel ou pas. Est-ce que non, c'est non, VTT, non. Est-ce que c'est gravel, c'est... comment on résout le petit problème d'anxiété de se dire je veux faire du bikepacking, quelle épreuve je choisis pour pas partir dans un truc trop difficile pour moi?
Bah, la distance, la région, ça c'est des points qui vont être importants. Déjà la distance, la longueur du parcours de l'épreuve est importante. Ouais. C'est pour ça qu'on dit souvent que la Tuscany Trail, c'est une très très bonne épreuve pour commencer parce que c'est pas loin. C'est l'Italie, donc il y a de la bouffe et il y a de l'eau partout. Mais vraiment, l'avantage de l'Italie, c'est dans le moindre patelin, il y a une épicerie, il y a de la flotte partout. C'est vrai que ça, c'est bien. C'est pas très loin, c'est dépaysant. C'est pas très long, il y a 400 bornes. Ouais. Et voilà, bon, donc commencer par une petite épreuve comme ça, c'est déjà un bon début. Et puis, il y en a beaucoup qui la font et qui se rendent compte qu'ils aiment pas ça trop, qu'ils aiment pas trop l'aventure et qu'ils préfèrent des choses plus organisées. Donc ça arrive. Donc, c'est vrai que c'est bien de commencer par une épreuve pas trop longue. Moi j'ai commencé par la French Divide, j'ai eu de la chance d'aimer ça. Parce que sinon, j'aurais pas fait long feu.
Oui, ça peut être curieux. Mais on voit aussi de plus en plus d'épreuves, entre guillemets, épreuves encadrées, où oui. il va y avoir un transport éventuel d'un petit peu de bagages. Donc il y a un petit côté tranquillisant aussi. On n'est pas obligé de jeter tout le monde dans l'arène. Où les mecs vont partir pour 1300 km avec le barda en sachant pas forcément faire. Mais c'est bien aussi qu'il y ait des épreuves ou des organisations qui proposent des micro-aventures, comme par exemple la Gravel Origine en octobre sur l'Europe d'Azur. C'est une première approche et on peut voir si on aime ça. On peut voir si
Ouais, vas-y. Bah pour l'avoir fait, on n'est plus dans le bikepacking. Là, c'est de la balade organisée. Là clairement.
Ouais. Faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Après, je pense que avant de se lancer dans de l'épreuve, je pense qu'on peut déjà, je voulais dire une sorte de non-réponse, commence par faire de l'overnighting, c'est-à-dire tu pars le vendredi soir, tu rentres le samedi soir ou le samedi midi. Bon, aussi parce qu'il faut équilibrer un petit peu notre pratique par rapport au contrat familial, j'ai envie de dire, et puis la vie de famille, tout ça. Mais déjà commencer par se mettre dans le dur, pas se mettre dans le dur par une épreuve, c'est-à-dire t'as un petit coin de montagne autour de chez toi, un joli massif, un petit parc naturel, un truc comme ça, tu prends, il y a des bons outils maintenant, moi je pense en particulier à Komoot, toutes choses comme ça qui sont pas mal, il y a rien de parfait en carto, mais c'est pas toujours évident les classifications de chemin, les choses comme ça, mais petit à petit je pense les produits
évoluent. Pas que Komoot.
Pardon.
Arrête avec Komoot, vous m'énervez.
Bon, ouais, je l'aime bien, moi je l'utilise depuis pas mal de temps, donc. Mais il y en a d'autres, hein. Après je laisse chacun citer ceux qui connaissent, voilà, mais celui-là je le pratique, donc je parle de ce que je connais, ça peut être un exemple, voire d'autres, et l'idée en fait c'est commencer à se faire ses petits parcours, et puis commencer par de l'overnighting, se faire une journée, se faire un week-end, se faire un jour, deux jours, une nuitée, deux nuitées, pour commencer à se faire la main, mais pas se faire la main dans une épreuve, quoi, je pense.
Oui. Mais c'est ce qu'on a fait ça, dans l'heure beaucoup. On a lancé les flash packing. Donc une fois par mois l'été, on se fait une nuit. Donc on part le samedi, le vendredi soir. en fonction des disponibilités de chacun, et on revient le lendemain midi. Là, on se fait 120 bornes, ou 60 bornes le samedi soir et 60 bornes le dimanche matin, et avec un bivouac et tout, c'est cool, quoi. Et on est autour de Lille, donc on parle toujours de Lille. Et c'est vrai que c'est sympa, et on trouve des spots de bivouac sympas, et c'est toujours, ça permet de découvrir le bikepacking, le bivouac, et puis, bon, puis boire des bières aussi.
Aussi.
C'est autre chose, mais c'est vrai que c'est sympa.
Ah non, mais ça, c'est une super formule.
Le concept de la micro-aventure est en plus ultra bénéfique pour le moral. Donc, oui. Il y a un anglais, Alistair
Humphrey,
qui ne fait pas forcément qu'à vélo, etc., mais lui, il dit carrément de le faire en semaine, genre mercredi soir. On part, on fait une, deux heures de vélo, par exemple, on va se faire un petit bivouac, et puis on rentre le lendemain.
Mmh. Ah ouais, mais c'est ça. Flashpacking, c'est vraiment sympa. Et puis, c'est voilà, l'aventure au coin de la rue, et qu'il n'y a pas besoin de traverser, puis en plus, avec le contexte actuel, de pollution, etc., de longs voyages qu'on entend, il n'y a pas besoin d'aller forcément très loin pour découvrir des choses. Et juste en roulant 2-3 heures, on peut se faire plaisir, dormir dans un coin, bon, plus ou moins légalement, ça c'est une autre histoire. Et puis après, on en revient sur le podcast sur le bivouac.
Tout à fait.
Ouais. Et voilà, bivouaquer, se faire plaisir, profiter, et puis le lendemain rentrer, et au final, on est bien, et on a été dépaysé, mais à côté de chez soi.
C'est super important pour le moral, comme c'était dit très justement, le côté bivouac, tout ça, parce que on est vraiment dans de la rupture. On est vraiment dans, on casse le quotidien, etc. et tout. Moi, j'ai été pendant 20 ans chef scout, voilà. Et quelque part, notre échelle d'appréciation de nos conforts quotidiens, c'est une échelle qui est flottante. Et ça, c'est terrible parce que, à la fin, on n'apprécie plus rien. Le fait d'aller camper un petit peu, de se retrouver à faire son petit trou pour aller faire ses petits besoins, d'être content quand on trouve juste une rivière, tout ça et tout. Tu rentres à la maison, t'as un vrai chiot, t'as une vraie salle de bain, t'as une vraie cuisine, t'as un frigo. C'est Noël. Et là, tu te rends compte que, on a de la chance, quoi. Et il y a des moments, il faut savoir se couper un peu de tout ça pour l'apprécier à nouveau, quoi. C'est
voilà. Confiné aussi, pareil.
Aussi, malheureusement.
c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, et c'est ce que beaucoup apparemment n'étaient pas prêts à vivre.
Ouais, c'est une épreuve.
Priver d'un petit truc, alors que finalement, c'est pas grand-chose.
Non, c'est pas grand-chose.
C'est une petite épreuve quand même, parce que
par rapport à
des endroits du monde.
Mais par contre, il y a un livre qui est très bien avant de partir pour la première fois. Ça coûte 12 euros. Ça va se trouver d'occasion sur Boncoin ou quoi. C'est comment chier dans les bois. Parce que, en fonction des situations, il y a tout un art pour faire. On me l'avait offert et ça peut être très drôle. Mais bon. C'est petit à partir.
Ouais, non, mais il faut dédramatiser. Mais il y a des gens. C'est un vrai problème,
avec Vincent
hein.
Que je bosse, hein. Non, mais.
Moi, je travaille dehors, donc je suis habitué, hein, parce que on m'aménage pas des toilettes en forêt. C'est mon quotidien de tout faire dehors, manger dehors, travailler dehors, chier dehors.
Il y a des gros débats.
Vincent me dit, il a fait un bide avec son bouquin chier dans les bois.
Non.
J'ai tenté.
Mais il y a un gros débat assez rigolo chez nos amis américains sur le fait, est-ce que tu emmènes une petite pelle pour faire ton cat hole?
Oui, c'est vrai qu'ils ont leur pelle.
C'est rigolo. T'en trouves des toutes petites en plastique un peu rigide, tout ça et tout, assez rigolo. Oui. Et c'est vrai que, je trouve que c'est sympa à la limite de pas laisser traîner surtout le PQ, tout ça. Hein.
Non. Mais surtout le PQ.
Voilà, le reste, les animaux des bois te remercient.
Oui, c'est ça, ils seront contents.
Et donc.
Ça fait partie de la biomasse.
Exactement, Morbac et Moucham, comme chantaient très bien les Inconnus. Voilà. Mais. Mais bon, par rapport à ça, c'est vrai que y a un concept très important. Après, je ne veux pas rentrer dans le côté un peu trop à la mode, qui est de pas laisser de traces derrière soi, quoi. Le leave no trace. ce qui est très important, et je pense que pour montrer et faire en sorte que notre pratique elle puisse se pérenniser et être respectée, c'est très 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 important de faire gaffe à pas laisser des papier partout, il faut que justement un coin de bivouac, si on veut qu'il reste utilisable, soit toujours nickel. Quand on campe avec des gamins, avec des ados, dans le scoutisme, on dit toujours en partant, on ne laisse rien et c'est remerciements. C'est-à-dire vraiment qu'il n'y ait pas une trace de passage. Si on commence à laisser des bières pétées, des capsules, du PQ, des choses comme ça, même des pots d'orange et tout, on n'y aura pas droit longtemps, quoi. Donc faisons en sorte qu'on laisse aucune trace, quoi.
C'est ce qu'on dit. Oui, oui, le chaos attire le chaos. Et s'il commence à avoir un papier, bah, il va s'en vendre assez, on en tirer 10 autres.
Ouais.
Et oui, non, c'est vrai qu'il faut, il faut pas laisser de traces et voir laisser le site encore plus propre qu'il ne l'était à la base, quoi.
Bon esprit.
On va repartir avec des papiers.
Tout à fait.
Ouais, ouais, voilà.
Ah ouais. On est vraiment.
En Amérique du Nord aussi, ils sont peut-être plus exigeants là-dessus, certains, parce qu'ils ont, ils ont quand même une notion, quand tu pars en backpacking, genre dans le Canada ou aux États-Unis, dans certaines régions, il y a une notion de vie sauvage autour de toi, où ils n'ont pas forcément la même faune que nous, quoi. Enfin, moi, j'ai des potes qui ont vécu aux États-Unis, genre mettre la bouffe en l'air, etc., faire attention, parce qu'au niveau des odeurs et tout ça, ça peut amener à avoir des mauvaises, enfin des situations qui sont pas très cool, voire dangereuses. C'est vrai que nous, en France notamment, je pense que à part se faire charger peut-être par un sanglier,
c'est déjà pas mal.
Et...
J'ai plus peur des chasseurs que les sangliers, mais oui.
Non, un sanglier qui cherche de la bouffe et qui rôde autour d'une tente, il peut défoncer une tente pour de la bouffe.
Oui.
Et ça, à la nuit, ça peut être impressionnant. Ouais.
Ouais, c'est... Pour revenir aux bêtes sauvages en Amérique du Nord, je vous invite à écouter l'excellent livre audio qui a été fait sur la Tour Divide, où les gars te racontent que pendant la moitié de la Tour Divide, ils sont avec leur spray au poivre à cause des grizzlies. Hein. Donc ça, c'est vraiment chaud. Hein. Très très bon bouquin pour ceux que ça intéresse. Just Ride de Ty Hopkins. Si on peut parler d'un livre, vraiment excellent, et que vous pouvez avoir en livre audio aussi pour les gens qui sont souvent sur la route comme moi, je me suis régalé, très très bien lu en anglais sur des bonnes plateformes. Voilà.
et pour en revenir à la question de Richard à la base, c'était les premières courses débutées. Du coup, moi pour mon exemple, ça fait 5 ou 6 ans. Ça fait 7 ans que je fais du voyage et ça va faire 5 ou 6 ans que je fais du bikepacking. J'ai jamais fait de course. On le faisait, avant d'avoir la petite, on le faisait en couple. On a fait des trucs plus de route, on a fait plus de tout terrain avec le Jura, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas. Enfin, bikepacking, ça rime pas forcément exclusivement avec gravel, parce que des fois j'ai l'impression aussi sur Facebook que c'est la même chose, mais en fait, non, on n'est pas obligé de faire du bikepacking.
Non, pas du tout.
Le bikepacking, c'est pas forcément des courses. Même si à la base, les sacoches de backpacking qu'on connaît, etc., c'était un peu développé parce que il y a des courses qui étaient un peu extrêmes, et encore. Une première expérience, ça peut être juste simplement partir. Il y a pas mal de tracés qui existent. On a des applications très bien de différents noms, d'ailleurs.
Peux le dire, hein, que tu bosses pour OpenRunner.
Ouais, c'est bon. Non, pas encore. Je vais commencer jeudi, mais du coup, ça va être repoussé.
Alors bosse bien pour Spotzel, ça sera mieux.
Oui, c'est ce que je suis en train de faire. C'est pas forcément la course. Et c'est vrai que dans les différents podcasts de Spotzel, on l'entend. Je crois que c'est. Je sais plus si c'était Sofiane j'ai perdu le nom. Je perds les mensonges. Mais enfin, bon, qui disait qu'en fait, en course, eh ben, on roule et on se préoccupe pas de ce qu'il y a autour. Et backpacking, ça peut être aussi cool, en mode un peu plus cool, pour découvrir ce qu'il y a. Et surtout, bah, quand on débute, ça permet de moins se mettre dans le rouge et de moins taper la course. Après, des fois, un objectif de course, ça peut aussi plus se motiver.
C'est un petit peu l'approche, je rebondirai là-dessus, cyclotouriste, hein, je pense qu'il faut pas en avoir honte. On est une évolution du cyclotourisme, un bikepacker. C'est pas évident, ça. Voilà.
C'est tout le paradoxe aussi du bikepacker, c'est que le bikepacker veut, qui fait du tout terrain, veut aller dans la nature, découvrir des choses, être seul, mais il s'inscrit sur une épreuve où il est avec plusieurs personnes. C'est vraiment tout le paradoxe, parce qu'on a des gens qui veulent découvrir l'aventure, mais avec d'autres. Ils veulent pas être seuls, ils veulent avoir un cadre, ils veulent avoir une trace, ils veulent. Alors que, au final, on fait pas ça pour faire des épreuves, on fait ça pour être dans la nature. Enfin, après, on a chacun nos motivations. Mais il est vrai qu'il y a tout un paradoxe là-dessus qui est vraiment intéressant à voir et qui est rigolo, quoi. Et puis moi, c'est vrai que d'avoir fait des épreuves et beaucoup de sorties à côté, comme la GTMC, la Stevenson, etc., c'est pas du tout la même approche. Et que Moi, j'aime bien faire des épreuves, mais il y a un moment, j'en ai marre d'être sur la même trace et j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller voir le truc à droite, j'ai envie d'aller voir, de me faire aller la côte en plus pour aller sur la colline que je vois à droite. Et c'est vrai que il faut un peu un équilibre entre les deux. Mmh. Moi, j'aime pas être enfermé, j'aime pas être toujours sur ma trace. Je dis, allez, parfois, il faut savoir improviser, quoi. Improviser, découvrir.
C'est ça.
Mmh. C'est pour ça que faire des épreuves, c'est bien, mais faire des grands itinéraires, c'est intéressant. Moi, l'itinéraire le plus simple pour quelqu'un qui connaît pas du tout le vélo longue distance et qui veut découvrir et voir des belles choses, simplement, c'est la Vélodyssée. La Vélodyssée, elle est accessible à tout le monde. Il y a des commerces tout le long, il y a des campings tout le long, et c'est vraiment, ça roule peinard. C'est, tout est aménagé, tout est fait pour que ça se passe bien, et c'est vrai que ça se passe très bien. C'est même parfois un peu trop bien parce que c'est chiant, mais c'est vrai que c'est déjà une première approche qui est intéressante.
Mais nous, on l'a fait avec ma compagne. Et c'est vrai que c'est d'autant plus cool, c'est qu'ils ont compris que le vélo se développait. Et tu peux tomber dans des... nous, il y a eu un ou deux soirs, on a voulu se faire plaisir, on arrive dans des énormes campings, l'usine à Touré. Sauf que toi, t'es en vélo.
Ouais,
je me souviens, c'était où il y a le zoo, là. Je sais plus le nom. Mais et on arrive, c'était genre 40 balles par personne, nous, on est en vélo. Ouais. Ah bah nous, on aime bien les vélos, il y a un prix vélo, on a payé 10 balles, on avait l'accès au lagon machin,
au vélo, truc,
etc. C'est ça.
C'est vrai, il y a un tarif vélo. Sur un GTMC, c'est pareil. À chaque camping, il dit, vous êtes sur un GTMC, oui. Oh, bah, il y a un tarif vélo. Hop, c'est autant quand on paye, hein, parce que parfois, on fait même pas payer. Mmh. Et les campings, ils vont arriver, ils font, installez-vous. De toute façon, vous êtes à vélo, vous consommez rien. Bon, bah, ok. C'est bien, très bien.
Et c'est le côté agréable de se balader, enfin, de voyager à vélo. C'est vrai pour le bikepacking, le cyclotourisme. C'est que ça reste quand même un médium qui est super bien pour la rencontre. Pour le partage, et les gens, c'est pas agressif, quoi.
Non, mais les gens, c'est toujours une ouverture. Les gens viennent vers nous, nous demandent d'où on vient, où est-ce qu'on va. Mmh. Alors qu'en voiture, jamais, quand tu descends de ta voiture dans un village, les gens viendront vers toi et diront, vous venez d'où? Qu'est-ce que ça peut être fou? À vélo, les gens viennent vers nous, c'est vrai que c'est ouvert.
C'est pas agressif, en fait. C'est pas bruyant. Pas, et puis, souvent, il faut dire qu'au bout de quelques jours, ils doivent arriver, tu leur fais de la peine. Ouais. Non, ouais, il se rapproche pas trop, c'est pas le virus, c'est l'odeur, mais
ouais,
voilà.
Bon, on sent un peu mauvais. Mais ils aiment bien aussi qu'on leur raconte des histoires. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas partir à l'aventure, ils se nourrissent en fait des histoires des autres, et ça, c'est vrai, c'est intéressant.
Ça les inspire aussi, hein, et puis c'est parce que on a lu des belles choses, on a vu des belles choses aussi, qu'on se motive et qu'on y va, qu'on saute le pas et tout. Donc, c'est sympa d'avoir partagé là-dessus, hein, sur les premiers qu'on fait la French Divide par exemple et tout, ça inspire d'autres, hein, j'en parle en premier lieu, hein, et moi ça c'est d'avoir lu un peu ce que vous avez fait les uns les autres, et voilà, donc c'est sympa, et c'est un côté partage, et c'est vrai que le moyen mécanique, le vélo qui est pas agressif, qui est autonome, qui est pas très cher, et en fait il met pas de distance, il met pas de barrière.
Hey, tu coupes Thomas, tu coupes, tu captes mal.
Aïe, désolé, c'est la campagne, c'est le Tarn, désolé. Ça passe mieux là? Ça passe?
Ouais.
Ok, bon voilà. Non mais c'est juste pour dire que c'est pas agressif, je pense que c'est un peu la même chose avec les chevaux. Et c'est vrai que c'est des moyens de transport qui sont pas violents et qui sont pas bruyants, qui sont accessibles à tout le monde. Donc non, je pense qu'il y a un côté sympathique. Et puis on leur fait de la peine aussi. Hein,
il y a un moment qui est...
t'as juste été coupé quand même là. Hein. Il y a eu 30 secondes où on n'a rien entendu. Hein.
Ah mince.
Ouais. Bon, de toute façon, monsieur. Vas-y, Vincent, dis quelque chose.
Non, je disais, c'est juste pour finir. Il y a un moment qui est marrant en fait quand on arrive dans un camping ou qu'on mange, etc. Et c'est souvent les gens, vous venez d'où? Alors, on fait pas forcément beaucoup de kilomètres par jour. Mais il suffit qu'on soit à la moitié. Par exemple, pour la Vélodyssée, on avait fait Nantes à Bilbao. Ouais. On arrive à, enfin, dans les Landes, et vous venez d'où? De Nantes, vous allez où? À Bilbao. Et moi, ça m'a toujours fait rigoler, en fait, le moment où les gens, ils sont en train de comprendre d'où tu viens et où tu vas, de dire, mais il est en vélo, le mec, il est fou, quoi. Parce que pour eux, ça paraît complètement improbable, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus accessible que ça en l'air. C'est
toujours
un moment qui me fait rigoler, en fait.
Ouais. Bah, sur la French Divide aussi, ils nous prennent pour des fous. Et en plus, pour l'histoire, quand j'ai fait la Vélodyssée, c'était pour remonter de la French Divide. J'étais dans le Nord. Donc j'avais déjà 2200 ans dans les pattes. Non, j'en ai pas eu assez. Non. Mais c'est vrai que souvent, ce qu'on dit, c'est ce qu'il dit Sam au briefing de la French Divide. Il dit, quand on vous demande d'où vous venez, dites d'où vous venez du matin. Pas du début, sinon ils vont vous prendre pour des fous. Ni vous allez à la fin. Dites où vous allez ce soir. Sinon, les gens vous croiront jamais et ils vont vous jeter des cailloux.
Bon, messieurs, on va s'arrêter là-dessus. À moins que vous ayez encore quelque chose à ajouter. Voilà. Je vais commencer par vous remercier, donc Thomas, Vincent et Rémi, parce qu'une fois de plus, c'était super, super intéressant et super instructif. Je remercie aussi pour la première fois tous ceux qui ont participé à ce live, qui ont soit écouté, soit participé via le chat pour donner un avis ou poser une question. Donc bien entendu, ça sera réitéré parce que je trouve que la formule fonctionne vraiment bien. Et il y a une super interactivité entre nous et ça permet de créer des liens, tisser des liens. Et ça n'en sera que plus agréable le jour où on se rencontrera sur le vélo. Donc à refaire, voilà. Eh bien, moi, je vais vous laisser. Je vais aller manger avec ma fille. Et puis, voilà, parce que vous avez vu tout à l'heure, certainement entendu qu'elle est venue me chercher.
Non.
Et puis Fred me dit, de toute façon, on n'avait rien d'autre à faire. Donc, toujours le mot pour blesser, pour vexer. Et voilà, tout simplement. Donc, merci à tous, et puis à très bientôt.
Ouais, pas de problème, bisous à tout le monde.
Merci beaucoup.
Bise.
Bonne soirée.
Merci Thomas.
Avec
merci,
plaisir.
À plus, bise.
Au plaisir de te voir, salut.
Ouais.